augmente, mais moins que l'année précédente. C'est le constat d'une étude de l'observatoire Clameur menée dans l'immobilier privé. Selon cet observatoire, les prix des loyers pourraient stagner sur l'ensemble de l'année.
Demain sur France Inter, l'étrange journée de Tim Burton.
Welcome to the factory.
Start your screaming.
À l'occasion de Tim Burton l'exposition à la Cinémathèque française, France Inter consacre toute une journée au célèbre réalisateur, scénariste et producteur américain.
Come quickly, far too much to see.
Retrouvez Tim Burton dans le 7-9 de Patrick Cohen.
Listen, everyone.
À 9h dans Comment nous parle.
Salutations.
À 11h à la Cinémathèque française avec Isabelle Giordano et toute l'équipe des Affranchis.
Miaou.
Et à 18h20 dans Downtown. L'étrange journée de Tim Burton. Un événement à suivre demain sur France Inter.
Le public va être ravi, monsieur le président.
Toutes les infos sur franceinter.fr. France Inter, la différence.
Bientôt 15h05 sur France Inter et c'est Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Bonjour, j'appelle concernant votre reportage d'aujourd'hui, lundi 5 mars, sur l'affaire Apollonia. Juste un proverbe, bien mal acquis ne profite jamais. Mais si les enseignants et le milieu médical sont amenés à réfléchir dans l'exercice de leur métier, que dire de leur cupidité face à ce monde de profit pour certains ? Toujours plus pour gagner plus, ah, ça me rappelle un petit slogan. Mais dans quel monde vit-on ?
Bonsoir à vous. J'ai beaucoup aimé votre émission d'aujourd'hui. Les victimes d'une escroquerie qui se lamentent et qui pleurent, moi j'adore ça. Monsieur le proviseur et madame le professeur investissent 1 400 000 euros pour 9 appartements et 6 studios, une paille. L'emprunt couvre la totalité de l'investissement. Et de toute façon, rien de grave, ce sont les locataires qui paieront cet investissement. Ajoutons quelques avantages fiscaux sur lesquels monsieur le proviseur s'est montré très discret. Argument de choc, c'était pour compléter notre retraite. Et ta sœur, monsieur le proviseur, les retraites d'un proviseur et d'un professeur de l'éducation nationale sont à mon avis très convenables. Je dirais même plus, ce sont des retraites confortables, surtout quand monsieur le proviseur est déjà propriétaire d'une maison dans laquelle il a beaucoup bricolé. Bravo monsieur. Mais avis à la population, à la revente, c'est le truc à fuir. Conclusion. Fausse piste pour l'émission. Ce n'est pas une histoire de pigeon, c'est l'histoire de la grenouille qui veut se faire plus grosse qu'un bœuf. Balzac l'a dit plus tard autrement, qui trop embrasse un mal au rein. Sans rancune et bonne journée à tous. C'était Jacques.
Ouais, à la suite de ton émission, moi, ce qui me gonfle le plus, c'est pas que des gens aient essayé de faire du pognon une fois de plus avec de la défiscalisation. C'est pas non plus qu'ils se soient fait baiser, ça, ça les regarde. Non, ce qui me gonfle le plus, c'est qu'il y a 8 millions de personnes en France qui sont mal logées. Voilà, ça, ça me gonfle. Il y a des gens qui essayent de se faire soi-disant une retraite. Quand on gagne 3 000 euros de retraite par mois, on n'a pas besoin de se faire une retraite complémentaire. 3 000 euros par mois de retraite, ça va, ils veulent quoi en plus? Allez, salut, portez-vous bien.
Coucou!
Lorsqu'on était petit, dans les cours de récréation, on jouait à pigeon-vol. Plus sérieusement, sur l'émission d'hier, on entend à chaque fois la même rengaine. Nous n'aurons plus qu'une petite retraite, de l'ordre de 3 à 4 000 euros. Ben voyons. Mais il y a un élément de réponse dont tu n'as pas vraiment parlé, Daniel. En effet, comment des commerciaux arrivent-ils à utiliser la naïveté de ces gens, dits de la classe moyenne supérieure, bien éduqués et possédant un bon niveau d'études ? Ça se résume par un seul mot, cupidité.
Bonjour, c'est Gilles du Val-Romais. Dites vos émissions sur les pigeons, là, c'est vraiment formidable, on en redemande. Mais cette fois-ci, ils avaient un petit parfum de truand quand même, parce que recevoir un type dans une Bentley, bon, il a l'air pété de thunes, il vous le fait savoir. Vous avez envie de faire pareil, vous avez envie de monter sur le gros coup qu'il vous propose, vous y allez, vous vous faites repasser. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie de décrocher le flingue. Ça sent le truand, le petit truand minable, du début à la fin.
Qu'est-ce qu'ils sont lourds, les gens, qu'est-ce qu'ils sont lourds. Alors, il y a ceux qui ont été bloqués sur un bateau, déjà, ils se payent des vacances aux Seychelles, c'est déjà pas mal. Ça râle, c'est pas content, quand tous les médias, ils ouvrent leur petit là-dessus, bateau bloqué aux Seychelles. Alors, maintenant, c'est les gens qui arrivent en retard à Lille, là, il y a la neige, tout ça. Mais c'est pas grave, c'est un peu d'aventure, bon sang. Ça change du quotidien. Qui est ceux qui sont dans la rue, là, toute la nuit, là, qui n'ont pas de maison pour dormir. Eux, c'est la vraie aventure. Ils ont qu'à faire ça, l'expérience. Oh là là, qu'est-ce qu'ils se lamentent, les gens. Oh, mon train est en retard. Je suis à 2h du matin à Lille. Oh, pour une fois, pour une fois. C'est pas si grave, c'est pas si grave.
Eh ben, merci Alain. C'est le retour d'Alain. Merci pour tous ces messages, chers AMG, notamment, évidemment, les messages sur l'émission d'hier. Les pigeons d'Apollonia, c'était la première partie. Voici la seconde partie aujourd'hui. On continue. Et ce qu'on s'était dit au départ, c'est que qui sont les pigeons, qui sont les bons, qui sont les mauvais dans cette histoire ? Eh bien, c'était ambigu et l'ambiguïté est restée. Tantôt, vous avez éprouvé de la solidarité, de la compassion pour les, entre guillemets, victimes de cette escroquerie, de cette énorme entourloupe. Et parfois, ben non, c'est bien fait pour eux. Enfin voilà, c'est très, à chaque fois qu'on fait ce, qu'on aborde ce genre de sujet, sur les escroqueries immobilières, les défiscalisations immobilières, on estime à environ 40 000, on sait pas très bien d'ailleurs, hein, entre 40 000 et 50 000, on dit 100 000 Françaises et Français victimes de ces escroqueries. En tous les cas, là, on s'occupe aujourd'hui des victimes d'Apollonia, parce que ça, c'est une histoire tout à fait singulière, quand même, dans laquelle sont impliqués non seulement, évidemment, les agences de défiscalisation, mais évidemment des promoteurs, bien évidemment, mais des notaires quand même, des notaires éminents, et puis aussi des banques. J'hésite parce que c'est non seulement les banquiers responsables de certaines banques, mais aussi les banques elles-mêmes qui sont visées dans les poursuites et dans les mises en examen. Et c'est donc pour la première fois véritablement la finance elle-même qui est visée dans cette affaire. Donc on continue aujourd'hui avec Charlotte Perry et les pigeons d'Apollonia. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous, j'appelle pour signaler la création d'un repère, là-bas si j'y suis, qui vient s'ajouter à la liste des repères bretons, puisque ça se passera à Concarneau, au café Portrait de Famille, dans la rue du Mont-d'Urville. La première rencontre aura lieu jeudi prochain, le 8 mars, à 18h. Donc pas de thème vraiment défini pour cette première rencontre. On décidera ensemble des sujets que vous avez envie d'aborder et on en profitera pour revenir sur les émissions de la Bassilissuie qui vous ont marqué ou que vous avez envie de partager tout simplement. Donc venez nombreux, jeudi 8 mars à 18h au Portrait de Famille à Concarneau. Et merci à toute l'équipe pour vos émissions formidables. Voilà, à très bientôt, merci. Au revoir.
Putain, hier, mon train, hein, pendant 8 heures, je me suis indigné. À la seconde près, hein, montre en main. Je me suis indigné. Et ben aujourd'hui, le monde est toujours aussi pourri.
Oyez, oyez, les AMG, oyez, Daniel, ici le Café Repère de Metz. On vous invite aujourd'hui, mardi 6 mars à 18h, au Café La Renaissance de Ruvigne Saint-Avold à Metz, pour débattre sur un thème qui sera l'esclavagisme écologique et énergétique. On vous attend aujourd'hui à 18h à La Renaissance. Salut!
Oui, salut Daniel, salut à tous. Bon, mais j'entends l'histoire de ce pauvre monsieur, là. Mais bon, on va quand même pas pleurer quand les riches se font baiser, quoi. Voilà. Il avait bien assez d'argent, il veut en faire plus, et ben voilà, il en a moins. Non, je plaisante. Allez, salut.
On a vécu des années dramatiques. Pour nous, la vie s'est arrêtée le jour où on a découvert cette escroquerie. Ce sont des années de vie qui nous ont été volées par des voyous.
Il y a un an, les dirigeants de la société Apollonia sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée.
Vous savez, là, en ce moment, il y a la ville de New York qui poursuit les banques pour avoir fait défaut, pour saisir les biens.
Pour les subprimes.
Bah là, on est un peu dans les subprimes à la française, hein.
Faux, usage de faux et abus de confiance. Le montant de cette arnaque dépasserait le milliard d'euros.
Aujourd'hui, je dis, messieurs les banquiers, vous avez du sang sur les mains.
Nous sommes les pigeons incomplets, là. Hein.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base, j'y suis avec Charlotte Perry. Les pigeons d'Apollonia.
Flight number 2, arriving from...
Bon, mais il est 7h moins le quart du matin et je me trouve dans le TER, direction de Fontainebleau, où je vais aller retrouver monsieur Claude Michel et Isabelle, qu'on a déjà rencontrés, qui font partie de l'association des victimes d'Apollonia. Apollonia, c'était donc cette société basée à Aix-en-Provence, spécialisée dans la défiscalisation immobilière et qui proposait des appartements à des gens qui voulaient défiscaliser ou préparer leur retraite. Il s'est trouvé que cette société a monté en fait la plus grosse escroquerie immobilière de ces dernières années. Plus de 2000 victimes. Il y en a pour 1 milliard d'euros d'escroquerie. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de mises en examen. Parmi ces mises en examen, il y a évidemment les gens de la société Apollonia.
Non, mais je n'ai pas mis non, je n'ai pas la fermeture de ma vie de porte.
Mais aussi des notaires et des banquiers. Et aujourd'hui, bah, je vais aller retrouver donc Claude Michel et Isabelle. Et on va se rendre à Nevers, où il y a une vente aux enchères d'appartements qui ont été saisis. Parce que les gens n'arrivaient plus à payer leur crédit. Et les banques ont saisi les appartements et les mettent aux enchères pour une poignée d'euros. Alors dans l'affaire Apollonia, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont fait des prêts faramineux, 1 million, 2 millions, plusieurs millions d'euros. Et les loyers et le montant de la défiscalisation devaient couvrir le remboursement des emprunts. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Finalement, la défiscalisation plus les loyers ne couvraient qu'à peu près 40% des emprunts. Alors toutes les victimes de l'affaire Apollonia sont aujourd'hui fichées à la Banque de France, surendettées et sont incapables de faire face aux échéances. Et la plupart des banques, le Crédit Mutuel en tête, ne veulent rien savoir, malgré les mises en examen, malgré le fait que la justice ait reconnu que c'était une escroquerie, elles continuent de réclamer le remboursement des prêts. Et quand les gens ne peuvent plus faire face aux échéances, eh bien les saisies commencent. C'est un peu comme aux États-Unis au moment des subprimes. On voyait en fait toutes ces saisies immobilières et ces ventes aux enchères. Et ben là, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est pas à aussi grande échelle et qu'en général, c'est pas sur l'appartement principal. C'est sur ces appartements qu'ils ont achetés, ces appartements défiscalisés.
Mesdames, messieurs, bonjour, conseil régional, le Bourgogne 77, souhaite la bienvenue à bord du TER Romain et destination de la Roche-Vienne et des services suivantes. Belin, Bois-le-Roi, Fontainebleau-Avon et la Roche-Vienne, le terminus. Vous souhaitons les chagrins.
Ça y est, le train est parti, on s'enfonce dans la nuit. Il est 7h moins 10 du matin. Et on va donc arriver à 7h30 à Fontainebleau, où habite Isabelle, pour ensuite partir à Nevers, où la vente aux enchères a lieu, au Palais de Justice, à 10h30 du matin.
Zéro euro d'impôt. Ça vous dirait? Et devenir propriétaire, ça vous dirait? Vous n'avez pas d'argent? Oh, pas d'importance. Une gentille banque va vous prêter plein d'argent. Et puis avec ça, vous achetez un appartement? Non, 10 appartements. Où ça? Au bord de la montagne, à la campagne. Et dans vos appartements, eh ben, il y aura plein de gentils locataires qui payent des loyers. Et puis les loyers, eh ben, ça va permettre de rembourser la gentille banque. Et comme ça, hop, vous n'avez rien à payer. Vous comprenez? Ça vous coûte rien, ça vous rapporte tout. Et en plus, plus d'impôts. Grosse déduction d'impôts. Ça, c'est le gentil État qui vous en fait cadeau. Voilà. Ça s'appelle la défiscalisation immobilière. Vous achetez en empruntant et vous louez votre bien et vous remboursez l'emprunt avec le loyer et vous avez des réductions d'impôts. Alors, ils sont entre 40 000 et 50 000 qui se sont fait pigeonner, victimes d'arnaques à la défiscalisation immobilière. Une des plus jolies de ces escroqueries s'appelle Apollonia. On a commencé à en parler hier, de 2002 à 2008. Apollonia, agence immobilière d'Aix-en-Provence, dirigée par Monsieur Badache, propose à des cadres, à des professions libérales, à des médecins, la recette miracle. Un confortable supplément de retraite dans l'immobilier locatif sans avancer un centime de votre poche. Suffit d'emprunter la totalité, les loyers permettent de payer les échéances du crédit. C'est l'autofinancement. Et en plus, il y a des avantages fiscaux. Voilà. C'est quand même formidable. Alors, quitte à faire, pendant qu'on y est, pourquoi acheter qu'un seul appartement? On va en acheter plusieurs. Tiens, bah, une dizaine d'appartements. D'où l'importance, dans cette affaire, des sommes empruntées de 500 000 à 10 millions d'euros. Et voilà, il n'y a plus qu'à signer. Juste une petite signature ici. Signé. Acte de vente, contrat de crédit, allez-y signer. Apollonia s'occupe de tout. Signer, nous faisons le reste. Alors, tout s'est bien passé, surtout pour Monsieur Jean et Madame Viviane Badache, qui s'en sont mis plein les poches, et les promoteurs, évidemment, qui se sont sucrés, et aussi les notaires, j'en ai parlé, notaires de Lyon, des Bouches-du-Rhône, accusés de complicité et de faux en écriture, un petit peu gênant pour des notaires. Et il y a aussi des banques poursuivies pour complicité d'escroquerie et usage de faux. Crédit Immobilier de France, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. Et le 6 février, c'est donc il y a quelques jours, Léon Namani, directeur général du Crédit Mutuel, cadre de la haute hiérarchie de cette banque, a été mis en examen pour complicité d'escroquerie en bande organisée. Au total, donc, une trentaine de personnes mises en cause dans cette affaire, considérées comme le plus important dossier pénal impliquant le monde de la finance. Une question que posait jadis Bertolt Brecht. Qui est le plus coupable? Celui qui attaque une banque ou celui qui ouvre une banque?
Mes potes du crédit foncier ont lancé cette année un nouvel emprunt obligataire pour se relever de terre. Avec un taux actuariel quasi sacrificiel de 4,25%, et ce pendant 6 ans. Mes potes du crédit foncier n'ont plus les deux
chercher. Et si tu leur prends un crédit à vie, tu te feras des amis.
Moins 10.
Moins 10,
ouais,
il fait.
Ouais.
Le pare-brise est complètement gelé, on voit rien du tout. Alors là, on vient de quitter Fontainebleau et ouais, on se dirige vers...
Nemours, on va prendre l'autoroute à Nemours pour aller à Nevers.
Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Nevers?
Normalement, on devrait assister à un spectacle que je dirais habituel, c'est-à-dire la vente aux enchères de biens, puis racheté par, toujours par les mêmes, par ceux qui nous assignent. Mais enfin, on va voir, parce qu'il y a eu quand même un petit peu de mouvement là, ces derniers temps. L'acteur principal, en termes de rachat, eh bien, il a été mis en examen pour complicité d'escroquerie en bande organisée.
L'acteur principal, c'est Léon Namani, c'est ça ?
Léon Namani, oui. C'est le directeur général adjoint du Crédit Mutuel. C'est lui qui est en même temps le PDG de la société Actimo, laquelle société est une filiale du Crédit Mutuel, qui rachète habituellement les biens qu'elle a saisis. Alors elle les rachète bien sûr à un prix très intéressant, qui se situe entre 20 et 30% du prix d'achat. Et comme ça, le Crédit Mutuel se constitue un patrimoine immobilier intéressant, à moindre coût. C'est ce que j'appelle la deuxième escroquerie du Crédit Mutuel. L'escroquerie dans l'escroquerie.
Alors la première escroquerie, c'était...
C'est l'affaire Apollonia. La première escroquerie, elle porte sur 1 milliard. 1 milliard que représente uniquement les membres de l'association, l'escroquerie des membres de notre association, l'ASDEVIL, mais certainement que l'escroquerie est plus importante.
Il y a combien de personnes dans votre association?
On va dire 1 millier de personnes. On a à peu près 450 dossiers. Là, aujourd'hui, ce qu'on va assister, ce sont 2 appartements qui ont été achetés 85 000 euros chacun en 2005. Ils sont mis à prix à 20 000 euros. Bon, si vous avez un peu de monnaie, vous pouvez les racheter tous les deux. Hein.
C'est beau, là, c'est tout blanc, les arbres sont blancs, la route est blanche.
Peut-être qu'on serait à la rue aujourd'hui s'il n'y avait pas eu... Si on ne s'était pas bien défendu comme ça.
Ah oui, c'est sûr.
Vous seriez à la rue si vous n'étiez pas bien défendu comme ça?
Ah oui. Ouais, je sais pas.
Ah oui,
parce qu'on n'avait pas, on n'a pas assez... Nous n'avons pas assez de patrimoine hein, pour rembourser. Il faut tout absorber, hein, les maisons et le patrimoine pour rembourser.
Nous nous sommes lancés dedans parce que ça pouvait constituer pour nous une opportunité pour un complément de retraite, pour de façon à avoir une retraite décente. Et au terme de l'opération, eh bien, c'est tout à fait le contraire qui se produit. C'est-à-dire que ceux qui ont investi là-dedans pour se créer un complément de retraite ou avoir une retraite décente, eh bien, se trouvent ruinés complètement. Au moment du départ à la retraite, on m'a prêté 1,5 million. Vous voyez, il faudrait à peu près 2 siècles pour arriver à rembourser. Alors, la particularité de la banque, c'est qu'elle rachète les biens qu'elle a financés, elle les rachète à peu près 20, 30, 40% du prix d'achat. Je vous ai donné quelques exemples là, qui sont des exemples chiffrés, avec le cas d'une personne qui a acheté un studio, 75 000 euros. La banque l'a racheté aux enchères à 57% du prix d'achat, l'a racheté.
Donc on parle du Crédit Mutuel là.
Crédit Mutuel, oui. Et puis au terme de l'opération, l'emprunteur, qui avait donc emprunté 75 000 euros, se trouve devoir 92 000 euros.
Pourquoi? À cause des intérêts?
Voilà, il y a des intérêts. 9,90.
Ça, c'est le taux d'intérêt?
Oui.
9,90.
Si vous avez l'argent à placer, ça vaut le coup. Hein. Le deuxième exemple, l'appartement a été acheté 165 000 euros en 2005. Il a été mis à prix 40 000 euros aux enchères publiques, racheté 41 000 euros. Par la société Actimo. La société Actimo est elle-même une filiale du Crédit Mutuel Méditerranée. Ce monsieur qui se trouve dépourvu de son bien doit à la banque 251 872 euros. Et vous avez la même stratégie dans le premier exemple. Et aujourd'hui, on va avoir un troisième exemple. À la sortie du tribunal, on pourra mettre les chiffres.
Et ça, ce genre de pratique, c'est uniquement le Crédit Mutuel ou oui. D'autres banques également ?
Les autres banques ont démarré les saisies et après, elles ont demandé des mains levées, justement. Moi, j'avais une saisie immobilière par KGFI et ils ont demandé la main levée. Ben, la main levée, ils abandonnent, en fait. Ils ont stoppé la procédure de saisie.
Oui, le Crédit Mutuel est la seule banque qui se soit livrée à ce genre de choses.
Vous savez, là, en ce moment, il y a la ville de New York qui poursuit les banques pour avoir fait défaut pour saisir les biens.
Pour les subprimes.
Ben là, on est un peu dans les subprimes à la française. Hein. Donc là, elles saisissent quand même les biens sur la base d'actes notariés qui sont faux.
La crise immobilière crée un engouement pour les ventes aux enchères.
France 24.
Ceux qui ont encore quelques crédits solides tentent le jackpot de tirer le gros lot.
19 novembre 2008.
Les cours des maisons s'effondrent, les banques sont prêtes à toutes les concessions, même celles de vendre à perte. On signale la saisie car c'est l'assurance d'une bonne affaire. En deux ans, cette maison est passée de 800 à 500 000 dollars car la famille n'a pas pu suivre. Elle est partie sans laisser d'adresse. Dans cette Amérique du crédit roi, on n'a aucune pitié pour ceux qui n'ont pas pu payer. On ne leur prêtera plus un sou, tout devra désormais se régler au comptant. Le malheur des uns amène les autres à espérer le coup de poker. On vend à moitié prix. Les banques soldent, c'est le moment d'acheter. Celui qui vend sous la contrainte n'a aucun profit à espérer, juste limiter la casse.
Là, vous vous souvenez peut-être, on avait fait avec Guy Vontil des reportages aux États-Unis sur les subprimes, à Cleveland, si j'ai bonne mémoire. On avait assisté à des ventes aux enchères de biens saisis. Et c'était curieux parce qu'il y avait très très peu de monde pour enchérir. C'est un petit peu ce qui se passe là. Vous allez voir, il y a assez peu de monde pour enchérir. C'est-à-dire que les biens saisis sont rachetés par, non pas directement évidemment en l'occurrence par la banque, mais par une société très proche de la banque. Et cette société, ça permet à la banque de constituer un parc immobilier. Alors récemment, sur cette histoire, il y a un accord qui est intervenu entre les autorités américaines et cinq grandes banques impliquées dans cette énorme escroquerie. Et ces cinq banques ont accepté de donner à L5 25 milliards de dollars pour indemniser les personnes qui ont été victimes de l'histoire des subprimes. Il faut rappeler 11 millions de victimes aux États-Unis, 750 000 expulsions. C'était pas une petite crise comme ça, un petit coup de fièvre. Et, oh joie, les 750 000 foyers qui ont été expulsés de leur maison vont recevoir des chèques allant de 1500 à 2000 dollars. Le président Barack Obama étant très fier d'être arrivé à ce résultat. Alors on va voir avec Charlotte, maître Jacques Gobert, qui va nous éclairer justement sur ces subprimes à la française.
Donc maître Gobert, vous êtes avocat et vous défendez les très nombreux plaignants de l'affaire Apollonia. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passait aux États-Unis en 2008 avec la crise des subprimes ?
C'est difficile de faire exactement le même type de parallèle, mais disons qu'il y a des points communs. À savoir que dans ces dossiers, comme aux États-Unis, il a fallu développer ce que Joseph Stiglitz appelle des crédits prédateurs, c'est-à-dire il a fallu que les banques ferment les yeux sur des prêts qui étaient manifestement frauduleux ou qui comportaient des indications manifestement inexactes. Et donc ces crédits prédateurs consistent à justement laisser se débloquer des prêts qui engendrent des remboursements très supérieurs à la normale, au préjudice, en définitive, des gens. Et donc, le point commun qui existe avec les subprimes désormais, c'est que, comme les banques portent ces crédits, bien les porteurs du crédit, du risque, essayent de recouvrer leurs créances en se présentant devant les tribunaux, comme aux États-Unis, en ayant des dossiers de crédit qui sont en réalité falsifiés, qui comportent des faux, qui comportent des indications complètement erronées. Et donc les banques n'hésitent pas à présenter ces dossiers aux tribunaux. Et là, de ce point de vue, on se retrouve dans la configuration des États-Unis où actuellement plusieurs dizaines de banques sont poursuivies au motif qu'elles recherchent à recouvrer leurs créances par tous les moyens en exerçant des ventes aux enchères, en faisant des poursuites contre les emprunteurs malheureux, en se servant de dossiers qui sont manifestement frauduleux, en tous les cas qui reposent sur des bases inexactes. Ce qui est choquant, là encore, c'est que on présente ces dossiers aux tribunaux comme s'ils étaient normaux, alors qu'en réalité, c'est pas le cas.
Cabinet avocat, bonjour.
Pourrais-je parler à Maître Alias, s'il vous plaît ?
Oui, ne quittez pas. Allô ?
Maître Alias ?
Oui, c'est lui-même, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Je vous appelais parce que je prépare un reportage sur l'affaire Apollonia. Moi, je voulais donc savoir exactement, en fait, pourquoi votre client, Monsieur Namani, était mis en examen.
Alors, il a été mis en examen sous les chefs de poursuite qui concernent l'intégralité de l'affaire, à savoir complicité d'escroquerie en bande organisée, par aide, assistance et fourniture de moyens, courant 2002 à courant 2006 à Marseille. Voilà.
Il est soupçonné de quoi, alors, exactement ?
Je vais vous dire, moi, je suis très étonné de sa mise en examen. Il a été entendu, j'ai assisté à la garde à vue, il a dit 15 fois que lui pouvait renseigner personne précisément sur le dossier Apollonia, qu'il n'a pas connu, qu'il n'a jamais eu entre les mains à l'époque, et donc qu'il avait, lui, il estime n'avoir aucune responsabilité dans le cadre de ce dossier. Il y a une volonté, si vous voulez, de, je pense, de mettre en cause quelqu'un de la direction du Crédit Mutuel pour un peu voir quelle serait leur réaction pour satisfaire les parties civiles. Hein. Mais bon, voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi, Monsieur Namani, voilà.
Concernant les saisies actuelles,
oui.
Là maintenant, enfin, les actes de prêt sont quand même entachés de faux, il y a eu des falsifications, et pourtant le Crédit Mutuel se sert de ces actes pour continuer de saisir les biens.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Alors, une première chose, pour l'instant, il y a des notaires mis en examen.
Et incarcérés, il y en a eu trois quand même d'incarcérés.
Incarcérés, qui ont été libérés, et il y a ce qu'on appelle quand même la présomption d'innocence. Hein. Ce que je veux dire, c'est que l'acte de faux, pour l'instant, c'est une mise en examen. On examine donc s'il y a eu des actes de faux ou pas. Pour l'instant, on n'a aucune décision de justice au niveau pénal qui nous dit que ce sont des actes notariés faux. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, à ce jour, les emprunteurs, les investisseurs, n'ont fait aucune demande de transaction, aucune proposition.
Mais pourtant, avec toutes les autres banques, il y a eu des négociations, en attendant, justement.
Il y a eu des négociations, parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que ceux qui ne négocient pas sont mis en examen. Voilà. Alors, il y a des banques qui ont eu peur. Il y en a qui sont un peu plus droits dans leurs bottes et le Crédit Mutuel fait partie de celles-là parce que eux, ils estiment qu'ils n'ont pas agi de manière malhonnête. Voilà.
Et ben voilà, on y est. Wall Street, mon grand.
C'est important que tu vois la réalité en face.
Mais regarde la démesure.
Le système financier mondial est là, sous tes yeux.
Qui c'est que les banques travaillent pour leurs actionnaires ?
Ben non, pas ma banque.
Pardon ?
Au Crédit Mutuel, ils rendent des comptes à leurs clients sociétaires, pas des actionnaires.
Et par quel miracle ?
Parce qu'il n'y a pas d'actionnaires, papa.
Mais ça change la face du monde, ça ?
Non, mais ça change la banque.
Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Crédit Mutuel, plus que jamais, la banque à qui parler.
Je m'appelle Catherine Légy, je suis vice-président instruction au tribunal de grande instance de Marseille et au pôle financier. J'ai compté le nombre de banques. Je crois qu'il y a à peu près 90 banques qui sont concernées, mais il y en a beaucoup, il n'y a qu'un seul dossier. Donc c'est périphérique. On va dire que dans l'ensemble, il y a à peu près, je dois avoir à peu près 20 banques qui sont essentiellement concernées par cette affaire. Alors, pourquoi il y a autant de banquiers en examen ? Écoutez, je pense que c'était la période faste des années 2004-2007, qu'on retrouve dans d'autres pays d'ailleurs, où finalement on accordait des crédits sans vérifier quoi que ce soit, et très facilement et qui ont mis des gens dans des situations effectivement qui sont totalement anormales. Il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que effectivement, dans cette affaire, il y a beaucoup de banquiers ou de cadres bancaires qui ne comprennent pas du tout pourquoi ils sont mis en examen. Donc ça, c'est un point commun de leur défense. Ils ne comprennent absolument pas pourquoi ils sont mis en examen et ils comprennent pas ce qu'ils ont fait. Donc quand on met, je veux dire, une banque, en tout cas pour le moment, les personnes physiques en examen, c'est qu'on considère qu'il y a des éléments graves et concordants à leur égard. Bon, on est toujours sur la présomption d'innocence, mais on fait un pas de plus que le statut de témoin assisté. Donc si les banques ne savent pas pourquoi leurs cadres sont mis en examen, eh bien, il faut qu'elles réfléchissent pourquoi elles se retrouvent toutes dans cette affaire et globalement toutes les mêmes impliquées dans ces crédits. Je veux dire, moi je suis pas déchaînée de la mise en examen. Hein.
Je vous prie de m'écouter. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Je ne suis qu'un pauvre petit banquier qui a une complainte à déposer. Derrière mon costume noir et blanc, c'est plutôt noir que blanc. Je passe mon temps à encaisser les sourires gênés et les billets au fur et à mesure que mon bonheur se débite de plus en plus ma déprime se crédite. Je brasse énormément d'argent qui n'est pas pour moi, évidemment. Ma vie n'est qu'un compte courant. Je le cours après tout le temps. Je suis là aussi pour vous rappeler. Je suis là aussi pour vous rappeler que vous avez oublié de payer. Vous êtes bel et bien ruiné comme un chez vous. C'est les huissiers au fur et à mesure que mon bonheur se débite. De plus en plus ma déprime. Ce crédit. Je crois qu'un jour, je vais tout claquer. L'argent sale et l'argent déposé. Je m'en irai loin, loin des bureaux, du découvert et des agios. Et je m'en irai en silence, sans aucune échéance. Je brûlerai tous les billets et je vous dirai tous d'aller vous faire endosser. Je ne suis qu'un pauvre petit banquier qui a une complainte à déposer.
9h, nous sommes à 9h avec Isabelle et Claude Michel. Claude Michel, c'est celui qui a fondé l'association des victimes d'Apollonia. Et 450 dossiers ont été déposés dans cette association sur les 1000 personnes qui ont été escroquées dans cette affaire. Au total, une affaire d'1 milliard. Et là, aujourd'hui, il y a à Nevers, au palais de justice de Nevers, une vente aux enchères de biens immobiliers qui ont été saisis à la demande des banques et qui vont être donc vendus aux enchères. Mais pour, vous allez voir, des valeurs inférieures à ce qu'elles ont coûté.
Donc là, on se trouve devant le palais de justice de Nevers. Une belle grande porte dorée, juste à côté du palais des Ducs, de la magnifique cathédrale de Nevers. Il y a une grande arche pour rentrer, avec une grande porte avec des dorures, encadrée de deux beaux lampadaires. Accueil, entrée principale.
Il y a une porte aux enchères à 10h30. Au bout du voir ça.
Donc là, on se trouve dans le palais de justice. Il n'y a juste personne, il n'y a que nous. Quelle heure il est ?
27.
On va rentrer dans la salle.
Dossier 1126, caisse médicale de financement.
C'est tout ce qu'il y a.
Renforcer des biens de droit immobilier dépendant d'un immeuble immobilier situé sur la commune de Nevers, 5-11 quai des Mariniers, nommé résidence de logis, soit un appartement de chaussée numéro 10. Le montant de la mise à prix a été fixé pour chacun des deux lots à la somme de 20 000 euros et le montant des enchères à la somme minimale de 1 000 euros. Et le montant de la créance est un total arrêté au 6 novembre 2010 de 206 676,18 euros.
Donc là, on sort juste de l'audience des ventes aux enchères. Vous êtes maître
Macar Moulin.
Et vous défendez dans cette affaire la Caméfi, c'est ça ?
Voilà.
Mais en fait, donc c'est le Crédit Mutuel qui a saisi ces appartements et qui...
La Caméfi.
La Caméfi, c'est le Crédit Mutuel Méditerranée, c'est ça ?
Caisse Méditerranée de financement, oui.
Crédit Mutuel.
Oui, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, exactement.
Donc, on peut dire le Crédit Mutuel qui a saisi ses biens et qui aujourd'hui les met aux enchères parce que les gens ne peuvent plus rembourser, en fait, voilà. C'est ça ?
Oui, parce qu'il y a un jugement qui a ordonné la vente par adjudication des biens à l'audience de ce jour. Et la partie adverse vient de faire un incident.
Qu'est-ce qu'ils ont invoqué, la partie adverse ?
Les plaintes pénales contre au sujet de cette affaire. Donc on va attendre
la décision. Il faut que la juge délibère, c'est ça ?
Il faut que la juge délibère. Soit elle considère que... La plainte constitue un nouvel élément très grave et elle reportera, mais compte tenu des dispositions légales, ça me paraît difficile. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus.
S'appelait maître
Blanchecotte, mais qui en s'oppose à cette vente, qui serait évidemment lésionnaire de leurs intérêts, qui ont déjà été bien malmenés, puisque l'affaire Apollonia, vous la connaissez, et elle met en cause un certain nombre d'intervenants dans le dossier, qui sont soit des notaires, des clercs de notaires, ou même des personnels de la banque, qui ont évidemment œuvré au mépris des intérêts de ceux qu'ils étaient chargés de représenter, qui sont en l'occurrence... Mes clients, cette affaire est en cours devant un juge d'instruction pénale. C'est la raison pour laquelle il me semble que la vente du bien qui aurait été financé dans ces conditions qui sont évidemment tout à fait suspectes est prématurée.
Alors là, ce qui est étonnant quand même, c'est que dans la salle, il n'y avait aucune personne qui était là pour se porter acquéreur. Quoi. Comment ça se passe dans ce cas-là ?
Il n'y aura pas carence parce que je crois que mon confrère a un pouvoir. Donc l'avocat du poursuivant a un pouvoir et donc il y a a priori un investisseur potentiel. Il va porter une enchère sur la mise à prix puisque s'il n'y a que lui.
Donc au niveau de la publicité, ils font tout, ils ont fait le minimum légal, c'est-à-dire une annonce au journal officiel. Mais ce qui veut dire que en temps normal, il y a une publicité plus large qui peut être faite de façon à attirer du monde.
Oui.
Donc il y a ils font pas d'efforts quoi pour essayer d'attirer du monde, non ?
Ben manifestement, non. Dans le dossier, là, ils n'ont pas fait d'efforts pour attirer du monde, parce qu'on peut effectivement élargir la publicité. Et oui, on limite forcément le nombre d'investisseurs intéressés.
Donc ça permet d'avoir le monopole sur les enchères.
Ça, c'est bien du raisonnement pernicieux de journaliste.
Les biens qui ont été achetés, 85 000 euros,
oui.
Seront rachetés au terme de cette vente aux enchères à 21 000 euros.
Oui.
Ça, c'est bien.
Oui. Donc des gens qui auraient acheté ces studios 85 000 euros.
Ah oui, c'est forcément pas des gens du coin. Parce qu'en neuf à Nevers, on est à... En neuf bien placé à Nevers, on est à 1 500 euros le mètre carré.
Alors, nous avons des questions sur la suivante. Les demandes des époux Godard sont rejetées. Et donc,
sans doute avoir lieu.
Alors, pour chaque année de l'eau, le montant de l'enchère minimum est 1 000 euros. Je rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix, fixé dans le cahier des conditions de vente, soit 20 000 euros pour chacun des lots. Nous allons ordonner qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente, à savoir le lot 73, soit un appartement rez-de-chaussée numéro 10 et les 83 dixièmes des parties communes générales. Allons-y.
Enchère à 21 000 euros.
Donc là, l'avocat de l'Ukraine mutuelle lance une enchère à 21 000 euros. Société Actimo, dirigée par M. Léon Namani, qui vient d'acquérir ces deux lots.
Oui, il faut ajouter Léon Namani, mis en examen.
Attendez, je vais voir l'avocat. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, là ?
Les biens ont été vendus.
À qui ?
À une société de marchands de biens.
Qui s'appelle comment ?
Actimo.
Donc, dont le dirigeant, c'est M. Léon Namani, c'est ça ?
J'ai cru entendre, oui.
C'est vous qui les représentez et qui a acheté pour eux.
Le compte de cette société, voilà.
Et cette société, Actimo, c'est une filiale du Crédit Mutuel ?
J'en sais rien, je ne peux pas vous répondre.
Moi, je le sais, en fait, c'est une filiale du Crédit Mutuel.
Je ne peux pas vous répondre, je suis mandaté par un cabinet marseillais, donc j'ignore cette société. J'ai un pouvoir, j'ai représenté cette société pour le compte de mon confrère marseillais, voilà.
Mais du coup, le Crédit Mutuel a saisi les biens et les rachète par sa filiale immobilière Actimo.
Je peux pas vous dire ce que
les... Et M. Namani a été mis en examen dans l'affaire Apollonia pour escroquerie en bande organisée.
C'est parce que je ne connais pas, moi, l'organisation de la banque, etc. Hein, j'en sais rien du tout.
Mais c'est un petit peu étonnant.
Pour moi, ça doit être une... Actimo est inscrit au registre du commerce, ça doit être une société indépendante, voilà. Mais...
Quand on regarde 394 rue du Prado... C'est étonnant quand même le cercle de saisir les biens et de les racheter via.
Ah, madame, je suis désolé.
Alors, Maître Alias, vous êtes donc l'avocat de Léon Namani, qui est directeur général adjoint du Crédit Mutuel Méditerranée, qui a été mis en examen pour complicité d'escroquerie en bande organisée. Alors, à propos des saisies, le Crédit Mutuel a saisi les biens, les met aux enchères,
ouais,
et les rachète à travers une société qui s'appelle Actimo. Donc, Monsieur Namani est également le dirigeant,
ouais,
qui est une filiale du Crédit Mutuel.
Le Crédit Mutuel, oui.
Donc, c'est un petit peu, enfin, quand même étonnant comme pratique de saisir les biens, de les mettre aux enchères et de les racheter via une filiale pour une enchère.
Alors, je vais vous dire, ce qui se passe souvent, c'est que Actimo intervient aussi aux enchères pour pas que les biens soient bradés. C'est-à-dire que si vraiment il n'y a pas de meilleure offre, bon, eux deviennent adjudicataires, c'est quand même pas leur souhait. S'il y a un bien qui est mis en vente dans le cadre d'une procédure judiciaire, il est bien entendu de l'intérêt notamment du débiteur que ça soit vendu le plus cher possible. Vous êtes d'accord avec moi ?
Oui, mais dans ce cas-là, il faut faire de la publicité.
On va pas mettre ça dans la presse. C'est j'allais dire la banque, le créancier a fait ce qu'on appelle la publicité légale.
Le minimum, voilà. Légal, quoi.
Non, pas le minimum. La publicité légale. On peut pas dire que c'est le minimum légal, parce que le minimum légal, c'est péjoratif, ça voudrait dire qu'on a essayé d'en faire un peu moins que ce qu'on fait d'habitude. C'est faux, ils font la publicité légale.
Pauvre garçon, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer.
Ah bon ?
Mais figure-toi que le Père Noël n'existe pas.
Qu'est-ce que tu me fais, là ?
Mais parce que tu rêves. Enfin, ton banquier, quand il te place un produit, il touche sa com, hein, c'est dans son intérêt, lui. Non mais, Tu crois quand même pas qu'ils te vendent des produits financiers juste parce qu'ils sont bons pour toi?
Eh ben si.
Au Crédit Mutuel, les chargés de clientèle ne sont pas commissionnés. Et ça, ça change tout. Crédit Mutuel, plus que jamais, la banque à qui parler.
Alors Catherine Lévy, je rappelle que vous êtes juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, au pôle financier, et que vous êtes en charge d'instruire l'affaire Apollonia. Alors Catherine Lévy, par rapport à la pratique en fait où le Crédit Mutuel donc continue de saisir ses biens qui ont été acquis dans le cadre de l'affaire Apollonia, qui est une escroquerie, les gens ne peuvent plus rembourser, donc ils continuent de saisir les biens malgré qu'il y ait une instruction en cours.
Et moi je pense qu'ils ont une attitude qui est très dangereuse, parce qu'il faut savoir que dans cette affaire, il y a beaucoup de banques qui ont proposé des protocoles avec les victimes et qui ont, dès le début, eu une attitude, j'allais dire, de prudence par rapport à l'évolution du dossier. Donc après, j'allais dire que chacun prend ses responsabilités. Moi, je pense que bon, la banque qui pratique comme ça, avec un rachat par une de ses filiales, de ses biens à des prix totalement sous-évalués pour rien, j'allais dire que bon, les banques prennent leurs responsabilités. En soi, c'est pas illégal, mais moi, quand j'ai appris ça, je trouve ça assez choquant. Si vous voulez, dans l'état actuel de l'instruction, je trouve choquant que des banques dont certains membres sont déjà mis en examen continuent de poursuivre. On voit pas trop quelle est la finalité, en plus. Hein. Je veux dire, c'est un acharnement qui, vu le dossier, me paraît assez déplacé.
Donc là, on se trouve devant le palais de justice. La vente vient de se terminer. Ça a été vendu à 21 000 euros. Les enchères étaient à 20 000. Donc vous aviez jamais assisté à ces ventes aux enchères dans le cadre de l'affaire Apollonia?
C'est la première fois, je découvre. Je n'étais jamais allé dans une salle de vente. Mais j'avoue que j'étais édifié. J'ai été édifié de voir qu'il n'y avait qu'un acquéreur. Évidemment, le bien a été vendu avec une enchère de 1000 euros, c'est-à-dire le minimum, 21 000 euros à l'appartement, je trouve que c'est bien. C'est bien d'autant que ça s'ajoute à la première escroquerie, c'est un scandale de plus.
Et là, Monsieur Namani vient quand même d'être mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Alors, mis en examen, ça ne veut pas dire qu'il va être condamné, mais ça veut quand même dire que...
Qu'il y a des charges graves et concordantes quand même contre, en tout cas, le Crédit Mutuel.
Et moi, les bras m'en tombent de voir ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est pour ça que je me demande si on est encore dans un pays de droit. Parce que là, le résultat de l'affaire, c'est que la victime avait acheté cet appartement 85 000 euros. Il est racheté aux enchères publiques aujourd'hui 21 000 euros. Cette personne, donc, se trouve dépourvu de l'appartement qui ne lui appartient plus, mais va devoir rembourser le prêt qu'elle avait fait en 2005, majoré des intérêts depuis au taux de 10%. C'est-à-dire qu'elle va devoir rembourser 120, 130 000 euros au Crédit Mutuel qui vient de lui piquer l'appartement. À l'opposé, Crédit Mutuel n'a rien déboursé, il va encaisser 120 ou 130 000 euros plus l'appartement. Vous vous rendez compte, c'est formidable. C'est formidable. Et ça se fait tout à fait légalement, entre guillemets. C'est de notre devoir, je considère, de porter ça sur la place publique. On ne peut pas laisser passer une chose pareille. Bon, j'ai 60 berges, j'ai bien sonné, j'ai fait deux mandats électifs dans une commune, on a fait beaucoup de choses, j'ai fait 40 ans de vie professionnelle, et je me rends compte que je découvre le monde, aujourd'hui. Le monde
de la banque, des banques et de la finance.
Ah oui. On est en plein milieu de la mafia. Je ne sais pas quel qualificatif il faut apporter à ce genre de pratique. Je me retiens parce qu'il me viennent des mots à l'esprit qui n'ont rien à faire dans votre micro. Hein.
Merci à toutes et à tous. C'était Les Pigeons d'Apollonia, reportage de Charlotte Perry. Et puis tout à fait autre chose, même si c'est pas très éloigné, la pièce de Frédéric Lordon, D'un retournement à l'autre, une comédie en alexandrin sur la crise subprime, est à voir au théâtre Montmartre-Galabru jusqu'au 28 mars. C'est une mise en scène de Judith Bernard. Vous trouverez très facilement les coordonnées du théâtre Montmartre-Galabru pour voir la pièce de notre ami Frédéric Lordon. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de l'émission. Vincent Godard et Michel Béziquier ont été à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhérère ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37.
L'été commence maintenant sur idtgv.com. 35 destinations à partir de 19 euros à réserver maintenant pour cet été. IDTGV, choisissez avec qui vous voyagez.
SNCF.
Prix soumis à disponibilité, valable pour en aller simple en seconde classe. Réservation sur idtgv.com.
Et vous entendez, il est 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
Nicolas Sarkozy sur France 2 ce soir. Le chef de l'État va tenter d'inverser la tendance face à son rival socialiste François Hollande qui fait la course en tête dans les sondages. Un peu plus d'un Français sur deux sait pour qui il ira voter au premier tour de la présidentielle. À en croire un sondage Harris Interactive pour le site 2012 et vous. Nouvelle grève à la fonderie du Poitou. Les salariés du site d'Ingrande dans la Vienne ont cessé le travail aujourd'hui. Ils veulent interpeller les pouvoirs publics sur le sort de leur entreprise. La fonderie du Poitou Aluminium qui emploie plus de 450 personnes et qui est en redressement judiciaire depuis le 20 octobre. Les salariés ont voté en assemblée générale le blocage des deux sites de production. Ils demandent la réintégration du site au sein de Renault, fondateur du groupe. Les prix de l'essence crèvent les plafonds. Nouveau record pour le sans-plomb la semaine dernière. Quant au diesel, de loin le carburant le plus vendu, il baisse légèrement, un peu moins d'un centime selon des relevés officiels. PSA veut régler ses problèmes de surcapacité dans les deux ans. Le constructeur français vient de conclure une alliance avec l'américain General Motors et il se donne 18 mois à 2 ans pour régler ses problèmes en Europe. La Syrie, Paris réclame l'accès à tout le territoire syrien pour la responsable des opérations humanitaires de l'ONU. Valérie Amos est attendue demain à Damas. Elle doit pouvoir aller là où elle le jugera bon, estime le Quai d'Orsay. Ce matin, le premier ministre turc a réclamé l'ouverture de couloirs humanitaires en Syrie. La Turquie abrite plus de 11 000 réfugiés syriens. À Istanbul, Jérôme Bastion.
Un massacre systématique, des assauts inhumains de l'armée syrienne contre la population, le premier ministre turc n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier la répression menée par Bachar el-Assad, à qui il promet de faire rendre langue pour ses crimes, alors que, précise-t-il, ceux de son père étaient restés jusque-là impunis. Tayyip Erdogan réclame donc, comme l'opposition syrienne dont il salue au passage l'honorable résistance, je cite, « l'ouverture immédiate de couloirs humanitaires » et dénonce au passage les pays qui freinent les initiatives de ce genre, renforçant le régime syrien. Le chef du gouvernement turc ne précise pas où ni comment il veut instaurer ces couloirs. Mais avec un flot de réfugiés syriens sur son territoire qui a recommencé à gonfler ces derniers jours, la Turquie est de plus en plus sous pression pour se montrer solidaire avec l'opposition et la population syrienne. Elle se refuse cependant, pour l'instant du moins, à intervenir seule et en dehors du cadre de la légalité internationale.
Aux États-Unis, c'est le super mardi, une étape clé dans la course à l'investiture républicaine. On vote aujourd'hui dans 10 États. Il s'agit de départager les 4 candidats en lice. Pour l'instant, Mitt Romney fait la course en tête devant Santorum ou Gingrich. 16h passées de 3 minutes sur France Inter. Et c'est l'heure de retrouver le carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour, bonjour Delphine Simon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Hier, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer un pianiste qui vient d'être nommé comme professeur au Conservatoire supérieur de Paris, et national supérieur, et puis qui partait pour Albi, sa ville natale, où il s'occupe d'un beau festival. Et en plus, il a gravé quelques disques tout à fait passionnants. Ce pianiste s'appelle Denis Pascal. Et voici tout de suite de Jean Viener, puisque le disque que j'ai dans les mains là, qui s'intitule Piano Music, Jean Viener, partage le répertoire, nous fait partager le répertoire d'un pianiste et compositeur français d'origine autrichienne. Vous l'avez connu certainement, les plus anciens en tout cas, en regardant la télévision. Autrefois c'était en noir et blanc, il n'y avait qu'une chaîne, les histoires sans parole, et puis il y avait un pianiste en dessous, si on peut dire, quelqu'un qui jouait tout le temps pour accompagner et a vu ces musiques-là. C'était Jean Viener, et il a fait connaître la musique de jazz en Europe, et il a ouvert et dirigé à Paris avec Jean Cocteau le fameux cabaret Le Bœuf sur le Toit. Bref, un homme éclectique qui mérite d'être reconnu un peu plus. Voici Brillant, tiré de la sonatine syncopée de Jean Viener. Brillant, c'est le titre du mouvement, tiré de la sonatine syncopée de Jean Viener, interprété par Denis Pascal. Jean Viener qui avait créé les concerts Salade aussi, où on jouait de tout, du quatuor de Gounod, au quatuor de Darius Milhaud, du jazz, etc., etc. On lui avait prédit la catastrophe, et en fait, c'est pas vrai, ça a attiré beaucoup de monde. Mais évidemment, quand on est très éclectique, quelquefois, on a du mal à être reconnu, ce qui n'est pas le cas de Camille Saint-Saëns, que voici Camille Saint-Saëns, célèbre personnage, sévère personnage aussi, au comble de la connaissance de son art. Claude Debussy a dit un peu méchamment d'ailleurs, Saint-Saëns, l'homme qui connaît le mieux au monde la musique. Ça voulait dire il a tous les moyens, mais enfin, dans l'idée de Debussy, ça voulait dire aussi qu'il n'en faisait pas grand-chose d'inspiré. Et ça n'est pas vrai du tout, parce qu'il y a des pièces du bougon Saint-Saëns qui sont tout à fait vives, tout à fait passionnantes. Et dans le récent disque de Joshua Bell, le violoniste, avec Jérémy Denk, on entend de la musique française. Ce disque a été couronné par par Diapason, notre partenaire, et nous-mêmes, France Inter. Donc, un disque tout à fait recommandable, avec des impressions françaises. Ben, voici un peu de l'Allegro molto, très rapide, donc, de la première sonate pour violon et piano de Camille Saint-Saëns.